Son fils a presque 30 ans à présent. Son père vient de mourir. On est en 2010. Et Eleanor a 57 ans. Toby est le seul de leurs enfants qui a choisi d'accompagner Eleanor au crématorium. Toby, lent et doux, ne sait pas conduire. Quand il ne roule pas à vélo comme tout au long de l'année, quel que soit le temps, il occupe le siège du passager en tant que fidèle compagnon d'Eleanor. Lui qui adore regarder les vieux programmes télé sur Nickelodeon connaît bien Lone Ranger, naissance d'un héros. Il se surnomme parfois Tonto. Assis l'un à côté de l'autre, ils se rendent à la crémation de son père, Cam, l'ex-mari d'Eleanor. Ursula, qui a accouché de son deuxième enfant quelques mois plus tôt, a laissé un message sur la boîte vocale d'Eleanor. Orson a de nouveau une otite et Lulu a encore attrapé un rhume. Jack est parti à un match de basket. Quoi de neuf à part ça? En entendant ces mots, Eleanor ressent le coup au cœur familier. La façon dont sa fille communique avec elle ces dernières années, de plus en plus rarement, contient toujours une nuance de tranquille désapprobation ou d'irritation. Ursula semble convaincue que tout ce qui est allé de travers dans sa vie peut être attribué, d'une manière ou d'une autre, aux échecs d'Eleanor en tant que mère. En ce qui concerne son père, elle paraît ne retenir de lui que les meilleurs aspects. « Je préfère me souvenir de mon père vivant plutôt que de voir son corps disparaître dans un four », ajoutait-elle dans son message. Ursula ne sera donc pas présente à la crémation de Cam, pas plus qu'Al. Contrairement à Ursula, Al ne semble pas éprouver de ressentiment à l'égard d'Eleanor. Il n'est pas du genre à revenir sur le passé comme Ursula. Pour l'aîné d'Eleanor et Cam, les choses sont simples. Al aimait son père, aime sa mère et admet que ses parents ont fait de leur mieux. Inutile de s'appesantir sur ce qui aurait pu se passer mieux ou différemment. Al est aux prises avec des difficultés tout autres que celles qu'ont connues Ursula ou Toby. Al a 33 ans. Il est marié à Teresa, dirige leur start-up, gagne plus d'argent qu'ils n'ont de temps pour le dépenser. L'événement qui aurait pu se révéler un terrible traumatisme, sa transition de fille à fils, semble l'avoir libéré. Celle qu'il était, l'enfant qu'Eleanor appelait sa fille aînée, avait vécu dans un état de malaise presque constant durant ses 20 premières années, avec le mal-être interminable qu'on éprouve à sentir que le corps qu'on occupe n'est pas le sien. Dans la famille, on évite l'ancien nom d'Al. Il est simplement Al, le fils aîné d'Eleanor et de Cam, et il a l'air de bien mener sa vie à une grosse et douloureuse exception près. Plus tôt dans l'année, après qu'Al et Teresa ont investi des mois et des milliers de dollars dans un projet d'adoption, ils ont appris au moment de la rédaction des derniers papiers que la mère biologique avait changé d'avis et refusé de le laisser élever son bébé. Tout allait bien jusqu'à ce que l'agence évoque ma transition. La mère a dit à l'assistante sociale qu'elle voulait que son enfant grandisse dans une famille normale. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Et qui peut juger de ce qui est normal? En particulier quand il s'agit d'une famille, avait expliqué Al à Eleanor après l'échec de l'adoption. Je suis vraiment désolée. Toi et Teresa, vous serez les meilleurs parents que pourrait avoir un enfant, avait répondu Eleanor. Vous serez? Pas vous seriez. Il fallait montrer à Al autant d'optimisme que possible. Sans restriction. Comme chaque fois qu'Eleanor est témoin des chagrins de ses enfants, elle aurait souhaité pouvoir tout arranger, ou simplement aider. Eleanor essaie d'accepter le fait, ce qui prend du temps, que dans certains cas, les chagrins vécus par les enfants ne concernent qu'eux seuls. Elijah, le fils que Cam a eu avec Coco, sa seconde femme, aurait assisté à la crémation de son père s'il avait pu, mais son groupe, Dog Blue, est en tournée en Irlande. Dans la vision idéaliste d'Eleanor sur la vie de sa famille, les enfants auraient dû se réunir pour rendre hommage à leur père, mais cette vision n'a trouvait que peu d'écho dans la réalité. Ils ne sont donc que tous les deux, Eleanor et Toby, à rouler vers le crématorium. Papa a toujours aimé les feux de camp. Il n'a sans doute jamais pensé que ce qu'on va brûler, c'est lui, remarque Toby en observant par la vitre une rangée de petites unités de stockage, un ancien magasin de spiritueux condamné. Il s'arrête sur le parking derrière un Jiffy Lube. Evanley Rest ne ressemble en rien à l'image qu'Eleanor se faisait d'un crématorium. Elle suppose d'abord qu'elle a dû mal noter l'adresse. Le bâtiment a l'air d'une station de lavage ou d'un hangar à avions, mais l'enseigne en plastique avec l'image un peu écaillée d'un lys sur le flanc d'une colline lui confirme qu'ils sont au bon endroit. Ils sont accueillis par un homme qui se présente comme étant Jerry. Il porte une chemise hawaïenne. Vous vous attendiez probablement à un costume, mais à mon sens, les gens qui viennent de perdre un être cher sont suffisamment tristes comme ça. J'essaie de rappeler à mes clients les bonnes choses de la vie. Pas de tête d'enterrement. Eleanor regarde Toby. Elle a souvent l'impression que la manière dont fonctionne maintenant l'esprit de son fils, dont fonctionne son cerveau depuis presque 25 ans, révèle une lucidité qui échappe à d'autres, dotés d'un QI plus élevé. En réponse à la réflexion de Jerry, Toby se contente de secouer la tête. Selon Eleanor, sa confusion ne vient pas tant d'un manque d'entendement que d'une absence de compréhension. Toby et Eleanor se trouvent en présence d'un idiot. Les murs sont en parpaing, mais quelqu'un, Jerry, pas trace d'autres employés, a placé un bout de moquette provenant sans doute d'une solderie sur le vaste sol en ciment. Près du fond du bâtiment, on a installé un meuble s'apparentant vaguement à un hôtel, même s'il ressemble plutôt à un bar, surmonté de deux bougeoirs dépareillés, d'un vase d'œillets et d'un drapeau américain. « Vous l'avez ?» demande Jerry. Eleanor ne sait pas du tout de quoi il veut parler, mais Toby comprend. « La photo de papa, on nous a dit qu'on pouvait en apporter une, lui rappelle-t-il. « Ça va, nous savons comment il était, » tranche Eleanor. Elle veut dire à quoi ressemblait Cam quand il était jeune et en bonne santé, pas à la fin. Le point positif, lorsque quelqu'un meurt après une longue maladie, c'est que l'aspect qu'il a eu pendant la plus grande partie de sa vie parvient à supplanter l'image du spectre pâle et émacié qu'il est devenu. « Vous attendez d'autres personnes ?» demande Jerry. Eleanor secoue la tête. « Papa avait un groupe d'amis, » précise Toby. Même si lui et Eleanor ne doivent jamais revoir cet homme, Toby veut que Jerry sache que Cam était apprécié. Plus que ça, aimé. Il jouait dans l'équipe de softball des Yellow Jackets, première base. Toby annonce l'information comme si son père avait joué pour les Red Sox. En plus, il faisait des bols en bois avec des loupes. Des loupes ? Ça vient des arbres, les gros trucs noueux qui dépassent parfois du tronc. Mon père les transformait en bols. Toby en a apporté un au crématorium, avec un couvercle. Ils y transporteront les cendres de Cam jusqu'à la ferme. « Bon, » dit Jerry en tapant dans ses mains, « si nous n'attendons plus personne, passons à l'action. » Son geste évoque pour Eleanor un présentateur météo se lançant dans son bulletin sur le temps prévu pour un week-end de vacances. Il disparaît par une petite porte au fond de la salle et revient en poussant un chariot chargé d'une boîte qui ressemble à un cercueil, mais elle est en carton. À l'intérieur, le corps du premier homme qu'Eleanor a aimé. Vous avez demandé le modèle économique, n'est-ce pas? La plupart de nos clients optent au moins pour le contreplaqué, dit Jerry. Cam ne se préoccupait pas de ce genre de choses, déclare Eleanor. S'il n'était pas en bois dur, quelle importance, de toute façon, il va partir en fumée. On a dû utiliser une rallonge, dit Jerry avec une trace d'excuse. Votre homme faisait partie des grands. 1,90 m, annonce fièrement Toby.